Oui, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta parole si précieuse que tu nous révèles chaque jour dans le cadre de ce programme de la méditation des Écritures du jour. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour nos familles respectives, nos amis. Merci, Seigneur, pour nos initiatives, nos compagnies, même les bénéfices que tu nous permets d'avoir. Nous te disons merci. Seigneur, c'est seulement par ta grâce, c'est seulement par ta grâce. Et comment ne pas être reconnaissant en face à tout ce que tu nous fais. Oui, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Nous ne voulons pas partager le message de la bonne nouvelle sans que toi, tu n'aies ton mot à dire dedans. C'est pour cela que je m'abaisse, je m'efface et je te donne toute la place. Prends le contrôle. Je vais peut-être ouvrir la bouche pour parler avec ma voix, mais que ce soit, Seigneur, ton onction qui s'exprime, que ce soit ta révélation qui soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que le sang de Jésus fasse son œuvre. Le sang nous purifie, nous justifie, nous sanctifie. Le sang de Jésus que nous allons encore nous rappeler aujourd'hui à sa mort à la croix. Que ce sang toujours disponible purifie, Bible méditée, vie gagnée. Purifie ce programme. Purifie tous nos programmes, nos activités à Bible méditée, vie gagnée. Purifie tous nos membres, toutes les familles respectives. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle à notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés en Christ, chers amis de BMVG, bienvenue à notre programme de méditation du jour. Et désolé pour le retard que nous avons eu aujourd'hui, indépendant de notre volonté. Et nous sommes aujourd'hui donc le lundi 12 juillet de l'an de grâce 2021. Et nous allons essentiellement partager sur le livre de Matthieu au chapitre 27, un chapitre assez dense, 66 versets. Pour que nous puissions en savoir davantage sur les clés, les secrets révélés dans ce chapitre qui fait partie de Matthieu, un des 27 livres du Nouveau Testament. Et comme vous le savez, BMVG dans une nouvelle saison est en train d'explorer chacun des livres, chacun des chapitres de chaque livre et chacune des thématiques dans chaque chapitre et allant même dans les problématiques pour en sortir tout le temps la sagesse que Dieu veut que toi et moi nous puissions acquérir. Alors, nous, c'est qui? C'est surtout notre équipe du jour qui présente ce programme. Donc, nous sommes le frère Orphée des États-Unis en collaboration avec la sœur Caroline du Togo et le frère Almé du Congo, tous animateurs donc, de ce programme de méditation de deux jours sous la direction de notre hôte et bienfaiteur, le Saint-Esprit. Bien-aimés en Christ, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as pu prendre le temps d'écouter, de lire, de méditer sur le livre de Matthieu chapitre 27? Si tu ne l'as pas fait, s'il te plaît, il faut le faire. Nous ne voulons pas être des consommateurs simplement ici, nous voulons être des acteurs, des producteurs, des transformateurs, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ainsi, si toi, tu l'as lu, tu l'as écouté, tu l'as recherché, tu pourrais comprendre avec moi que voici donc les différentes thématiques de ce passage. Le tout premier thème développé, c'est sur la condamnation de Jésus-Christ, qui part de verset 1 et verset 2. Ensuite, est suivi de deuxième thème qui est le suicide de Judas, le traître, qui part du verset 3 jusqu'au verset 10. Ceci est suivi par l'autre thématique qui est Jésus qui se présente devant Pilate, le gouverneur romain, pour être poussé à être jugé. Et cela part de verset 11 jusqu'au verset 14. Une autre thématique développée, c'est sur la sentence à mort confirmée pour Jésus, qui part de verset 15 jusqu'au verset 25. Ensuite est suivie par la thématique des outrages des soldats contre Jésus, qui part de verset 26 jusqu'au verset 31, suivi de l'autre thématique sur Jésus crucifié, donc tué à la croix et mort à la croix, qui part du verset 32 jusqu'au verset 56. Ensuite, nous verrons la thématique, pardon, sur le corps de Jésus qui fut mis au tombeau, récupéré, mis au tombeau, donc qui part du verset 57 jusqu'au verset 61. Et finalement, la dernière thématique soulevée par ce texte sur la garde auprès du sépulcre pour que, soi-disant, les gens ne viennent pas voler son corps, qui part du verset 62 jusqu'au verset 66. C'est un peu long et ça nous a pris beaucoup de temps pour faire nos recherches. Et même le sujet étant assez lourd, nous avons préféré prendre du temps pour aller dans la réflexion, la méditation, la prière, pour venir partager simplement ce qui est compliqué dans le texte. Bien-aimés en Christ, les questions que nous nous sommes posées pour essayer de nous en servir comme schéma directeur pour cette méditation, c'est d'abord que signifient les épreuves de la passion et de la mort à la croix de Jésus-Christ. Ensuite, quelle est la nuance entre épreuve, tentation d'une victime qui les subit et les jugements, condamnations portées contre un accusé qui les mérite? Amen. Alors, commençons par la première question. Que signifient les épreuves de la passion et de la mort à la croix de Jésus? Je vis aux États-Unis. Et aux États-Unis, la peine capitale est légale. C'est-à-dire qu'on peut condamner quelqu'un à la mort quand la justice a statué et on a vu que la personne est coupable d'un crime qui mérite la mort. Et souvent, on passe les gens soit par mort sur chaise électrique, ou bien on passe les gens par mort, par asphyxie par gaz. Et il y a d'autres procédures diverses. De toute façon, quand tu as été jugé, reconnu coupable, tu dois mourir. Dans ce cas d'espèce, les hommes ont jugé Dieu et l'ont reconnu coupable et donc devaient le tuer, n'est-ce pas? C'est ça littéralement ce qu'il y a. Mais est-ce que Jésus était vraiment coupable? C'est ça la grande interrogation qui relève tout le problème au niveau de la passion de Jésus, de sa mort à la croix après le jugement injuste des hommes. Bien-aimés en Christ, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce jugement, cette condamnation et cette mort de Jésus à la croix, c'était une prophétie accomplie. Tu vas me dire, frère Orphée, comment ça on peut prédire que quelqu'un va mourir, il va mourir exactement. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. D'après mes recherches, j'ai compris que la promesse de la venue d'un Messie transparaît clairement dans l'ensemble des Écritures de l'Ancien Testament. Les prophéties, par exemple, sur le Messie ont été révélées des siècles et des siècles, parfois même des millénaires avant la naissance de Jésus-Christ. Et ça, c'est clairement dit que le seul homme à les avoir tout accompli, c'est lui, Jésus-Christ. N'est-ce pas? De Genèse donc à Malachie, on compte plus de 300 prophéties sur les détails sur sa venue, la venue de Christ, sa naissance virginale par Marie à Bethléem, dans la tribu de Juda et de la lignée du roi David. De sa vie sans péché, de l'expiation des péchés de son peuple, de sa mort, de sa résurrection. Je parlais bien sûr de ce Messie-là juif qui... Tout cela a été documenté dans les textes prophétiques hébraïques. Donc, en fait, tout ce qu'il a vécu sur la terre, c'était déjà écrit pour nous avertir et pour nous dire que quand Dieu prononce sa parole, révèle justement l'avenir, il l'accomplit toujours. Les prophéties les plus connues sur la mort du Messie, donc de Jésus, sont surtout dans le psaume 22. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, va relire ce psaume, tu vas comprendre beaucoup de choses. Bien avant que Jésus ne vienne, le psaume 22 était écrit par David, inspiré par le Saint-Esprit. Va relire aussi le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Tu verras vraiment tellement de choses extraordinaires que Dieu ne fait jamais rien sans avertir d'avance les gens avec qui il a une relation sur la terre. Le psaume 22, par exemple, est particulièrement surprenant. Il décrit plusieurs éléments distincts de la crucifixion, de Jésus. 1000 ans auparavant. Alors, tu vas me parler d'exemples. Regarde, par exemple, le Messie aura les mains et les pieds percés. C'est dans psaume 22, verset 16. Et tu le retrouveras aussi dans le livre de Jean 25, qui était l'actualité du Nouveau Testament. On a parlé aussi de ses os ne seront pas brisés, alors que les jambes des crucifiés étaient généralement cassées pour accélérer leur mort à la croix. Tu verras ça dans le psaume 22, 17, et qui a été actualisé dans Jean 19, 33, si tu pousses un peu tes recherches dans le Nouveau Testament. On a aussi parlé de ces habits qui seront tirés au sort, qui est dans le psaume 22, verset 18, qui est actualisé dans ce Matthieu 27, verset 35. Quant à Ésaïe, parlons-en. Ésaïe 53 parle du serviteur souffrant. Parle de la mort, donc du Messie, pour les péchés qu'il va endosser à la place de son peuple. Ainsi, plus de 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe raconte en détail sa vie et sa mort. Quand on parle de son rejet, par exemple, par les hommes, tu vas voir ça dans Ésaïe 53, verset 3, actualisé dans le Nouveau Testament, dans Luc 13, verset 34. Tu vas voir aussi la mort en sacrifice expiatoire pour les péchés de son peuple et que le Messie devait faire. Tu vas voir ça dans Ésaïe 53, verset 5 à 9, qui est actualisé dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. On parle aussi du silence qu'il gardait devant ses accusateurs durant le procès. Tu verras ça dans Ésaïe 53, verset 7, qui est actualisé dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, verset 23. On parle aussi de son ensevelissement, ça y est, sa mise au tombeau avec les riches. Jésus n'a pas été enterré dans une tombe de pauvres, c'est une tombe de riches qui a été achetée par un riche. Et donc on parle de ça déjà dans Ésaïe 53, verset 9, qui est réactualisé ici dans Matthieu 27, entre le verset 57 jusqu'à 60. Et quand on parle de la mort avec les criminels aussi, Ésaïe en avait parlé dans Ésaïe 53, verset 12, qui a été actualisé quand nous verrons après Marc au chapitre 15, verset 27. Donc tu vois que Dieu a prédit et Dieu est venu accomplir ce qui est prédit. C'est le premier sens qu'on doit retenir de la passion de Jésus, que rien n'est arrivé à Jésus qui n'a été dit auparavant. Très important de noter ce point-là. Alors, deuxième point qu'il faut noter, c'est que Jésus est mort parce qu'il s'est fait pécher pour toi et moi. Il a payé seulement le salaire du péché que lui-même il a endossé pour qu'il paie à ta place, qu'il paie à ma place. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Je vais expliquer un peu le texte de la substitution pénale. Ceux d'entre nous qui ont déjà lu un peu le livre de Lévitique, vous avez vu qu'il était prescrit au peuple que quand ils ont péché, ils veulent se faire pardonner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des animaux, on tue l'animal et le sang est versé et on fait un sacrifice. Et ce sacrifice symbolisait un peu le transfert du péché de la personne vers l'animal. Donc il fallait tuer quelqu'un. Tout cela ne venait pas de manière fortuite, hein, parce que quand Adam et Ève ont péché, Et quand il devait quitter le jardin d'Éden, chassé donc par Dieu, après le jugement prononcé dans la sentence qui est tombée, tu as tué un aliment pour le couvrir. C'était ça là, le premier acte, de couvrir déjà le péché que nous avons et le transmettre à un aliment qui a perdu ton sang, au lieu que ce soit Adam et Ève qui perdent leur vie. Comprenez? Le concept ou bien le principe de la substitution pénale fait référence donc à la mort de Jésus à la place des pécheurs. Les Écritures nous enseignent clairement que tous les hommes sont pécheurs. Tu verras ça dans Romains 3, versets 9 à 18, de même que dans Romains 3, versets 23. Le châtiment donc pour notre péché est la mort. Comme si tu enfreins les lois de ton pays, tu dois être jugé. Et le châtiment suprême, comme je l'avais dit aux États-Unis, c'est la mort, la peine de mort capitale. Dans Romains 6, 23, il est dit ceci: en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce verset nous enseigne plusieurs choses, bien-aimés. Ça veut dire d'abord que sans Christ, nous allons tous mourir et nous allons tous passer l'éternité en enfer à cause de nos péchés qui doivent être jugés, doivent être condamnés et doivent être sanctionnés, n'est-ce pas? La mort, donc, dans les Écritures, est une séparation, de manière littérale, c'est une séparation. Mais de manière réelle, c'est une mort pour l'éternité. Une séparation avec Dieu pour l'éternité. Parce que notre vie ici, sur la terre, est passagère. Un jour, toi et moi, on sera rappelé encore. Dieu va nous retirer le souffle, le corps va retirer la poussière, mais l'âme va vivre. Cette âme-là ne pourra pas avoir Dieu qui l'a créée. Cette âme sera envoyée en enfer. Maintenant, nous savons que nous mourrons tous. Mais nous devons aussi savoir que certains vivront dans la présence de Dieu avec Jésus-Christ pour l'éternité, alors que d'autres ne pourront pas bénéficier donc de cette éternité. Ils vont plutôt passer cette éternité hors de Dieu en enfer. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Et ce sont des choses sérieuses, il ne faut pas s'amuser avec ça. La morale à laquelle ce verset fait référence est donc à l'enfer. Mais il nous apprend aussi que la vie éternelle est accessible par Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle la substitution pénale. Tu mérites la mort. Je mérite la mort. Mais quelqu'un a déjà payé le prix pour moi. Et j'accepte ce qu'il a fait pour moi. La justice accepte ce qu'il a fait pour moi. Et on me fait sortir de la prison. On m'exempte de la sanction qui m'a été imposée. C'est ça le véritable sens de la substitution pénale. Jésus-Christ donc est mort sur la croix à notre place. C'était nous qui méritons d'être cloués sur cette croix, d'être flagellés, d'être condamnés après avoir été jugés, et donc de mourir à cause de ce que nous méritons, à cause du péché que nous avons fait dans notre vie. Mais Christ a pris sur lui donc notre punition. C'est celui qui n'a pas connu le péché, comme disent les Écritures, il l'a fait devenir péché pour toi et pour moi, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Tu verras ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Poursuivant en disant dans 1 Pierre 2, verset 24, que lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ses blessures ou ses meurtrissures que nous avons été guéris. Dans 1 Pierre 2, verset 24, tu verras ça. Là encore, on voit que Christ a pris sur lui nos péchés pour en payer le prix. Quelques versets plus loin, nous lisons ceci, que Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Ces versets doivent nous apprendre que Christ a été notre substitut et qu'il a expié nos péchés en payant le prix. Il y a d'autres passages, mais je vais m'arrêter seulement là pour que tu comprennes que c'est pour toi, pour se substituer à toi, qu'il a payé le prix. en allant à la croix. Alors, nous continuons toujours la réflexion pour voir maintenant quelles sont les épreuves, ou bien que signifient donc ces épreuves de la passion et de la mort de Christ, Jésus-Christ. Bien-aimé, on va vivre un peu ces épreuves, parce que quand les gens parlent de Jésus est mort à la croix, ils pensent que c'est juste un mythe. C'était un truc réel. Au temps où les Romains avaient annexé, avaient même envahi, avaient conquis des territoires, y compris Israël, ils imposaient leurs lois. Même s'il y avait des lois préexistantes, ils imposaient leurs lois. Et donc, par exemple, la peine de mort se passait par la crucifixion à la croix. C'était une loi qui était amenée par les Romains. Ce n'est pas les Juifs qui ont créé la crucifixion à la croix. Et même le jugement des coupables se faisait par la justice romaine qui était installée dans ce pays-là d'Israël. Alors, tu vas me dire, comment s'est déroulé le procès avant la crucifixion, par exemple? Parce que les Romains ne tuaient personne, surtout quand la personne est accusée de quelque chose, sans avoir pris le temps de l'écouter, de faire le procès. Même si la dernière réponse leur revenait, c'était à eux de pouvoir juger. Alors, je vais te faire revue ça d'après quelques recherches que j'ai faites. C'est que la nuit de son arrestation, Jésus a comparu devant Anne, Caïphe et une assemblée des chefs religieux, le Sanhédrin. Tu vois, c'est un peu comme la représentation de la haute instance juridique que nous avons dans nos pays, le Sénat par exemple. Vous voyez? Donc pour eux, leur Sénat, pour les Juifs, c'était le Sanhédrin. Donc tu verras ça dans Jean 18, versets 19 à 24 et dans Matthieu 26, verset 20, 57, pardon. Ensuite, il fut amené devant Pilate, le gouverneur romain. Tu verras ça dans Jean 18, verset 23, puis envoyé à Hérode, le roi d'Israël en ce moment-là, dans Luc 23, verset 7, et ramené finalement à Pilate dans Luc 23, verset 11 à 12, qu'il a finalement condamné, parce que c'était lui l'autorité romaine qui était là. Bien-aimé, le procès de Jésus s'est déroulé en six parties. Si tu as bien remarqué, trois devant un tribunal religieux, oh la religion quand ça nous tient, et trois devant un tribunal romain. Oh, la politique, quand tu nous surprends aussi. Jésus a comparu devant Anne, l'ancien grand prêtre, devant Caïphe, qui était grand prêtre aussi en ce moment-là, et devant le Sanhédrin, qui est donc le Sénat des Juifs. Au cours de ce procès ecclésiastique ou bien religieux, il a été accusé de blasphème pour avoir affirmé être le Fils de Dieu, le Messie. En fait, c'était un faux problème, parce que le vrai problème, c'était ailleurs. Son procès religieux devant les autorités juives montre à quel point celles-ci le haïssaient. Parce qu'ils ont foulé aux pieds un grand nombre de leurs propres lois. Du point de vue donc de la loi juive, par exemple, ce procès souffrait de plusieurs vices de procédure, plusieurs vices de forme. Et on dirait même que c'est un procès truqué pour diverses raisons. Alors je vais te citer certaines de ces raisons. Première raison, c'est qu'aucun procès ne devait avoir lieu en période de fête. Or, Jésus a été jugé pendant la Pâque, n'est-ce pas? Vice de procédure, vice de forme. Deuxième raison, chaque membre du tribunal devait donc voter individuellement pour condamner et acquitter ou acquitter donc l'accusé. Or, Jésus a été reconnu coupable par acclamation. Il voulait vite fait, bien fait, pour tuer un homme qui devenait trop gênant pour eux. Troisième raison, c'est que si la peine de mort était prononcée, une nuit devait s'écouler avant l'exécution de la sentence. Or, Jésus a été crucifié que quelques heures après sa condamnation. C'est pas normal tout ça là. Voyez? Vous voyez à peu près la haine des hommes contre une victime expiatoire. Quatrième raison, c'est que les Juifs n'avaient pas l'autorité d'exécuter qui que ce soit. C'était les Romains qui devaient le faire. Pourtant, ils ont poussé les Romains à exécuter Jésus. Les Romains n'étaient pas prêts à exécuter le Messie parce qu'ils ne voyaient rien de fautif dans le Messie. Mais ils ont forcé la main à l'autorité romaine pour pouvoir le tuer. Cinquième raison, c'est qu'aucun procès ne devait avoir lieu pendant la nuit. C'était en plein jour qu'on faisait le procès. Mais ce procès de Jésus se déroula avant l'aube. Et si c'est normal tout ça là? Sixième raison, l'accusé devait être conseillé ou représenté. Ce qui n'a pas été le cas de Jésus. Directement, il n'a même pas eu d'avocat. Et si c'est normal cela, mon frère, ma soeur? Septième raison, c'est que les questions auto-accusatrices étaient interdites. Il fallait donner le temps à l'accusé de se justifier au moins. Pourtant, les juges ont demandé à Jésus s'il était Christ. Ils ont voulu lui faire dire des choses pour pouvoir porter des accusations contre lui. Bien aimé, le procès devant les autorités romaines a commencé devant Pilate. Vous verrez ça dans Jean 18, verset 23. Après que Jésus a été battu, les accusations portées contre lui étaient très différentes de celles du procès religieux. Il fut accusé d'inciter le peuple à l'émeute, donc à la sédition. Il fut accusé d'inciter le peuple, d'interdire au peuple de payer leurs impôts, alors que c'était faux, et de revendiquer la royauté, alors que ce n'était pas juste. Pilate, n'ayant trouvé aucune raison juste, justifiée de ces accusations, qui pouvait lui donner le droit de mettre Jésus à mort, l'a renvoyé donc à Hérode. On peut le faire dans Luc 23, verset 7. Hérode l'a ridiculisé, a ridiculisé Jésus, mais pour éviter de devoir assumer les responsabilités politiques de ce crime crapuleux-là, il a renvoyé encore à Pilate, Luc 23, verset 11 à 12. Vous suivez un peu la trame des choses. Au cours de ce dernier procès, Pilate a essayé d'apaiser l'animosité féroce des Juifs qui étaient montés contre Jésus, en le faisant flageller simplement. La flagellation romaine était donc un châtiment terrible parce que ça pouvait aller jusqu'à te donner 39 coups de fouet. Beaucoup de gens ne résistaient même pas là-bas, ils mouraient même avant, mais Jésus a résisté jusqu'à la fin. Donc tu comprends que d'abord, au niveau du procès, il y avait des vices de procédure, il y avait des abus terribles. Maintenant, parlons au niveau de la station de ce qu'on appelle le chemin de croix. Je remarque chez certains de nos frères catholiques, ils parlent souvent de chemin de croix, mais il faut comprendre vraiment le concept qu'il y a derrière. Il faut voir la réalité que nous devons retenir. Alors, bien-aimés, quand on parle de chemin de croix, il faut savoir que c'est seulement voir à peu près pas à pas les dernières heures de la vie de Jésus sur la terre avant d'aller à la croix et de mourir pour toi et pour moi. Il y a plusieurs formes de chemin de croix. Mais la forme bibliquement correcte qui implique davantage deux éléments de traduction se résume en ces différentes étapes. Je vois à peu près 14 étapes que je peux discuter ou bien présenter rapidement avec toi. Première étape, c'est que Jésus est condamné à mort. C'est son premier chemin de croix, ça. Il était condamné à mort. Deuxième point de son chemin de croix, c'est que Jésus reçoit la croix. Troisième point, Jésus tombe la première fois. Quatrième point, Jésus rencontre sa mère Marie en cours de route, en cours de supplice, j'allais dire. Cinquième point, Simon de Cyrène, l'Africain, est forcé de porter la croix de Jésus. Sixième point, Véronique essuie le sang du visage de Jésus. Septième point, Jésus tombe une deuxième fois. Huitième point, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleuraient. Neuvième point, Jésus tombe une troisième fois. Dixième point, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Onzième point, Jésus est cloué à la croix, ce qu'on appelle la crucifixion, qui était une pratique ignoble imposée par les Romains à leurs victimes. Douzième point, Jésus meurt sur la croix. Treizième point, le corps de Jésus est retiré de la croix, la déposition ou ce qu'on appelle l'élémentation. Et finalement, le quatorzième point de ce chemin de croix, c'est le corps de Jésus est mis dans le tombeau. Bien-aimé, tout ça là, c'est pour, je dois t'aider à comprendre que c'est pas à pas que Jésus a subi son pire châtiment de mourir pour toi et pour moi. Et ça doit t'interpeller, ça doit m'interpeller aussi. Il y a d'autres expériences que nous pouvons partager, mais le temps nous faisant défaut. Nous allons juste retenir le plus important. C'est que cette passion ou cette mort ignoble de Jésus à la croix, c'est qu'il a pris ta place, il a pris ma place. Et tu vois que c'est tout à fait incroyable que toi et moi, on puisse rejeter ce que Jésus a fait et dire que non, que soit c'est un mythe, c'est ce que certains d'entre vous disent, ou soit que ça ne nous engage pas. Bien-aimés. Le temps va arriver où on va se retrouver devant Dieu. Tu vas voir que ça t'engage, ça m'engage. Donc, ceux d'entre nous qui n'y croient pas encore à ce sacrifice, aujourd'hui encore, que le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs, et pour qu'on revienne dans de meilleurs sentiments, qu'on reconnaît que Dieu a fait ce sacrifice-là pour nous. Alors, sans transition, pour aller à la deuxième question, quelle est donc la nuance entre les épreuves, les tentations d'une victime qui les subit, et donc les jugements et les condamnations qu'on l'accusé qui le mérite? Généralement, l'épreuve, bien aimé, c'est des situations de la vie qui arrivent pour tester ton caractère. On parle que tu es éprouvé quand certaines situations arrivent dans ta vie que tu ne maîtrises pas, mais qui en fait sont des choses qui sont permises souvent par Dieu pour voir quel est ton caractère, quelle est ta fidélité vis-à-vis de lui. Ainsi, j'ai récemment une de mes sœurs et amies qui a perdu sa maman en Europe. On a fait descendre au pays pour enterrer donc sa mère. C'était une épreuve terrible pour elle. Elle n'avait pas aucun moyen de contrôle là-dessus. Mais cette épreuve a révélé son caractère pour voir si, dans une situation aussi difficile, comment elle peut garder la tête haute et comment elle peut honorer la dernière mémoire de sa mère. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Nous l'avons soutenue comme nous pouvons, mais je sais qu'on ne peut jamais remplacer une maman qui s'en va. Mais nous lui souhaitons beaucoup de courage. Je pense qu'elle doit être en train de nous écouter dans cet audio. Nous te souhaitons beaucoup de courage, ma soeur. C'est pas facile de perdre un être cher. C'est un être qui t'a donné vie sur cette terre. C'est des preuves que tu as vécues et que Dieu puisse t'aider. On parle aussi de tentation ou des épreuves. C'est la même chose. La tentation, la différence entre l'épreuve et la tentation, c'est que la tentation, c'est l'ennemi, le diable, qui s'y mêle pour voir si tu restes fidèle à Dieu, à ses lois, à ses règles, à ses préceptes et tout, ou bien tu veux changer de camp. Ainsi, Jésus a été tenté au désert pendant, après son jeûne et prière de 40 jours, il a été tenté. Vous vous rappelez, il est venu, il a tenté Jésus, il voulait que Jésus mange, je dis, il s'est appuyé sur la parole pour dire, il est écrit. Il a voulu tenter Jésus en l'amenant à challenger Dieu pour dire, ah, si je vais faire ce que Dieu a dit, si je vais me jeter du temple, etc., du haut du temple, et Jésus. Il a encore répété pour dire, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Satan a voulu aussi tenter Jésus en l'amenant à l'adorer, lui, Satan, alors que tu vois à peu près le système. Il veut que Dieu adore lui, Satan. Il a toujours voulu ça et c'est ce qu'il continue de faire et de pousser certains hommes à faire. Ne tombe pas dans son piège. Jésus a résisté aussi. Donc, en bref, épreuve comme tentation, c'est des situations qui arrivent, qui ne sont pas sous ton contrôle et que tu subis, mais qui permettent de révéler vraiment ta fidélité vis-à-vis de Dieu ou de voir ton caractère jusqu'où tu es mûr par rapport à certaines valeurs de la vie. Par contre, quand on parle de jugement et de condamnation, c'est des choses que tu as fait que tu mérites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par exemple, Jésus a pris tes péchés et tu as vu ce qui lui est arrivé. Donc maintenant, si tes péchés sont gardés à toi-même, tu finiras par payer. Si tu es volé un jour, on t'attrape, on va te juger et tu vas payer. Si tu es meurtrier, on t'attrape un jour, toi aussi tu vas passer par le même sort de mourir. Tu vois, si tu es menteur, un jour on t'attrape, tu perds ta confiance vis-à-vis des gens parce qu'on sait que tu es menteur. Et donc, un jugement, c'est les conséquences de ce qui t'arrive parce que tu le mérites parce que tu as fait des méfaits et tu mérites justement ces conséquences-là. Tu vois. Donc, bien aimé, dans les épreuves, prie pour que Dieu te donne tout ce qu'il faut comme force intérieure, comme sagesse. Pour pouvoir surmonter ses épreuves. Parce qu'après les épreuves, vient toujours la couronne. Jésus est mort, mais après il est ressuscité, il a été élevé à la droite du Père. Aujourd'hui, qu'on appelle son nom, tout genou fléchi dans les cieux et sur la terre, et tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Tu vois. Mais par contre, fais attention, parce que tout ce que tu fais de mal, il y a un salaire pour ça, il y a un jugement pour ça. Et quand ça vient, personne, malheureusement, ne peut te retirer de là. Personne ne peut te retirer de là. Maintenant, si ça vient et que tu as le temps de demander à Jésus de te pardonner, il va te pardonner. Il peut même te sauver de cette situation. Je me dis, comment ça, le frère fait? Regarde les deux malfaiteurs qui étaient crucifiés avec Jésus. Ils devaient passer de ce monde dans l'autre monde. Le premier malfaiteur était en train de rire de Jésus et même de le narguer, de le provoquer. Alors que c'était une folie. Toi, tu devais passer de cette vie à une autre vie. Et on te dit que celui qui est avec toi, c'est lui qui sauve les gens. Et tu ne peux même pas croire. Et tu continues à faire de la connerie à la croix. Donc il a été mauvais jusqu'à la croix. Il a continué dans son attitude d'être quelqu'un de mauvais. Que cela ne soit pas ta portion, bien-aimé. Au contraire, l'autre, qui était plus sage, bien qu'il était malfaiteur, a dit, mais tu n'as pas honte et tu n'as pas peur. Lui, il est là, il a été crucifié parce qu'il n'a rien fait, parce que les deux malfaiteurs savaient que le Messie n'avait rien fait. Mais nous, on est là parce qu'on mérite notre mort. Et ce malfaiteur sage qui s'est rattrapé à la fin de sa vie a dit, Seigneur, aujourd'hui, quand tu seras au ciel, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Bien-aimé, que cela soit notre mode de vie, même si nous tombons dans des situations que nous-mêmes avons créées à cause du mal que nous faisons, de la méchanceté que nous pratiquons, prenons le temps au moins de nous repentir en sachant que nous sommes pécheurs, prenons le temps d'inviter Dieu en lui demandant pardon, prenons le temps même de demander pardon à ceux qui nous ont offensés et revenons dans le bon sens, revenons sur la bonne foi et laissons Christ devenir notre vrai avocat parce que lui, il a la spécialité de gagner tous les procès, peu importe ces procès, qu'ils soient des procès vraiment qui peuvent nous entraîner à la mort ou bien des procès qui peuvent nous entraîner seulement en prison. Jésus-Christ est l'avocat suprême qui nous permet d'être complètement déculpabilisés et de sortir indemne. C'est ça notre prière pour toi et pour nous. Et que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons maintenant finir. Saint-Esprit, merci pour ce temps. Ça a été un peu plus long, mais on ne peut pas parler de la mort de Jésus de manière trop courte. Parce que c'est tellement profond que si on ne tire pas les enseignements, on ne peut pas évaluer à juste titre ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, les hommes. Commencez par moi qui suis un pauvre pécheur. Merci de nous avoir rappelé aujourd'hui tous ces faits. Merci de nous avoir disposé maintenant pour que ton esprit puisse nous convaincre de ce qui est du péché, de la justice et du jugement en nous, pour que nous puissions maintenant nous réveiller et que nous donnions notre vie à Christ, parce que lui, il a déjà pris nos péchés sur lui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était donc le frère Orphée des États-Unis en collaboration avec l'équipe de présentation de ce jour. Amen, amen, amen.